Vous écoutez, on lit pour vous.
Sergio Errico, être afro-canadien, une richesse à partager. Un texte de Margot Paz Paredes, paru le 24 mars 2025 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Sergio Errico fait partie des artistes mis à l'honneur dans le dernier documentaire de Phil Como, Résonance Acadie, qui retracent leur parcours lors de la résidence créative lancée par le Congrès mondial acadien, CMA, 2024. Originaire du Togo, mais ayant grandi à Halifax, le jeune slammer et producteur embrasse ces deux cultures, l'Afrique et l'Acadie, avec beaucoup de fierté et de dévouement. Afro-canadien, personnellement, je suis très honoré de l'être. On ne choisit pas sa culture, et être acadien, je ne l'ai pas choisi. C'est juste mon identité. C'est ce qui fait de moi un acadien, un Afro-canadien. C'est cette ouverture d'esprit aussi. C'est quelque chose de très important, confie-t-il. Une identité qu'il avait déjà célébrée dans son premier album, intitulé « Afro-canadien », et qui lui avait permis de se démarquer parmi les nombreuses candidatures à la résidence. C'est grâce à Mme Isabelle Pédot, la directrice de l'Alliance française d'Halifax. Elle pensait que je serais un bon candidat pour le CMA. Il fallait avoir des projets, musicaux ou peu importe, du domaine dans lequel l'artiste était. J'avais déjà sorti un album, un EP, et puis j'ai fait pas mal de bénévolat dans le cadre de la culture acadienne. J'ai grandi ici, à Halifax, parmi les Acadiens. Aussi, il fallait avoir moins de 30 ans. J'ai appliqué et ils ont accepté ma candidature, explique-t-il. Une expérience qui s'est avérée très enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel. D'abord, parce que, en tant que producteur, côtoyer M. Como et son équipe au quotidien ont été une réelle opportunité pour lui d'apprendre de nouvelles choses et de se dépasser. Ça m'a donné une autre perspective de la réalisation des films ou des tournages. L'équipe de M. Phil était vraiment très ouverte avec nous. Il nous expliquait quoi faire. C'était un tournage très naturel. Il n'y avait pas de mise en scène, ni quoi que ce soit. On avait une salle où tous les artistes, on se mettait ensemble et chacun créait son propre projet. L'équipe de Phil venait et nous prenait en vidéo ou en photo. On faisait comme s'il n'était pas là. Et je pense que la coordination entre nos créations de projets et la présence de M. Phil et de toute son équipe nous ont aussi poussés à aller chercher le meilleur de nous. Ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. De même que cela lui a également donné l'opportunité d'agrandir son répertoire professionnel de par les liens solides qu'il a créés et avec lesquels il espère pouvoir se retrouver un jour pour de futures créations. Ça m'a ouvert des portes. Aujourd'hui, je connais M. Phil. Si demain j'ai un projet en tête, je peux le contacter. Cela m'a permis aussi de faire la rencontre de 9 autres artistes avec qui, aujourd'hui, ensemble, créer un projet en mémoire du CMA, par exemple. On est toujours en contact. On communique tous les jours. Mais également parce que la résidence et toutes ces personnes qui l'ont entouré lui ont beaucoup apporté humainement parlant, lui offrant la possibilité d'exploiter davantage la profondeur de ses racines au sein de son art, de mieux se connaître et de définir ce que, en tant qu'artiste, il veut transmettre au monde. J'ai vécu une très belle expérience, dans le sens où j'ai eu l'opportunité de découvrir différentes personnes, d'apprendre de différentes personnes. Ce n'était pas que de la musique. Il y avait aussi du théâtre, des marionnettes, des dessins, des tableaux d'art. Tout cet esprit-là m'a permis de mieux comprendre c'est quoi l'Acadie et de partager, selon moi, mon expérience en tant qu'Acadien ici. Et puis, de l'autre côté, partager mon expérience, ma vie, d'être un Africain. Pour moi, c'est vraiment un mélange de cultures. Et durant cette semaine de résidence, ça se résume à un apprentissage, un développement et aussi un partage. Plus qu'une opportunité professionnelle et un élan pour sa carrière, la résidence a donc été pour lui une véritable leçon de vie pour laquelle il ressent beaucoup de gratitude. Ce fut une très belle expérience que je ne peux décrire. C'était juste « wow ». J'ai vraiment grandi, appris beaucoup de choses. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est juste incroyable. J'ai été très chanceux aussi de participer à cette résidence parce que c'était la première et j'en suis très honoré. Aujourd'hui, porté par tous ses souvenirs et sentiments de reconnaissance, il avance dans ses nouveaux projets, comme la chanson « Héritage », sortie au mois d'août dernier, avec toujours la même volonté d'y mélanger ces deux cultures, l'Afrique et l'Acadie. Ce mélange de cultures, c'est ce qui fait la beauté de ce monde. Je pense que nous sommes tous pareils et que, pour avancer et de vivre dans un beau monde, il faut se mettre ensemble, se rassembler, partager ses valeurs, ses cultures, et puis aussi apprendre des autres. C'était Sergio Errico, Être Afri-Canadien, une richesse à partager. Un texte de Margot Paz Paredes, paru le 24 mars 2025, dans le courrier de la Nouvelle-Écosse.
Au Mexique, le territoire occupé par les monarques cet hiver a presque doublé en un an. Un texte d'Alex Fontaine paru le 10 mars 2025 dans Le Devoir. Le territoire forestier occupé cet hiver par les papillons monarques a presque doublé depuis l'an dernier au Mexique, révèle un rapport publié jeudi le 6 mars 2025 par le Fonds mondial pour la nature, WWF, et la Commission nationale des zones naturelles protégées du Mexique. Il s'agit toutefois d'un niveau inférieur à la moyenne à long terme, préviennent les auteurs. En décembre 2024, les colonies de monarques occupaient 1,79 hectare de forêt au Mexique. Il s'agit d'une hausse de 99% par rapport à la même période en 2023. Bien que le nombre de monarques par hectare varie d'une année à l'autre et qu'il soit difficile à estimer, notre meilleure estimation est d'environ 21 millions, rapporte le Fonds pour le monarque, une organisation vouée à l'étude et à la protection du précieux insecte. Cela porterait donc le nombre de monarques ayant passé l'hiver au Mexique à environ 38 millions. Si les lépidoptéristes peuvent se réjouir, le niveau mesuré cet hiver demeure bien loin du sommet des 32 dernières années, observé en 1996, alors que le populaire papillon occupait 18,19 hectares de la forêt mexicaine. C'est en 2013 que le chiffre le plus bas de l'histoire récente a été atteint à 0,40 hectares. Bien que les monarques occupent presque deux fois plus de territoires forestiers que l'an dernier, les populations demeurent bien en dessous de la moyenne à long terme, précise le chapitre mexicain du Fonds mondial pour la nature. Ce dernier attribue la croissance de 2024 à de meilleures conditions météorologiques avec des sécheresses moins sévères que dans les années précédentes, sur la route de migration des papillons des États-Unis et du Canada vers le Mexique. Encore des facteurs de risque. Les monarques ne sont toutefois pas au bout de leur peine. Les changements climatiques posent un risque pour la reproduction des papillons, ajoute le WWF. L'utilisation d'herbicides et d'insecticides, de même que la déforestation de certains sites d'hivernation, représente aussi des dangers pour la santé des monarques. Il existe deux sous-populations de monarques en Amérique du Nord, explique Environnement et changement climatique Canada. Les monarques de l'Est se reproduisent entre l'Alberta et la Nouvelle-Écosse et migrent vers le Sud pour passer l'hiver au Mexique, tandis que les monarques de l'Ouest se reproduisent à l'ouest des montagnes rocheuses et passent l'hiver sur la côte californienne. Bien que la durée de vie moyenne du monarque soit de 2 à 6 semaines, la génération migratrice peut vivre jusqu'à 7 mois pendant l'automne et l'hiver, ajoute le ministère. Les monarques individuels qui quittent le Canada à la fin de l'été ou à l'automne ne sont pas les mêmes qui reviennent au printemps. Dans certains cas, les monarques qui arrivent au Canada au printemps pourraient avoir 2 générations de moins que ceux qui sont partis l'automne précédent. Selon la Xerces Society for Invertebrate Conservation, la population de monarques de l'Ouest est passée de 233 394 individus en 2023 à 9 119 en 2024, une baisse de 96 %. Le monarque est un pollinisateur. Ainsi, la préservation de l'espèce est vue par plusieurs spécialistes comme essentielle à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. C'était, au Mexique, le territoire occupé par les monarques cet hiver a presque doublé en 1 an. Un texte d'Alex Fontaine paru le 10 mars 2025 dans Le Devoir.
Septuagénaire et une nouvelle fois maman, un texte de Pierre Gingras, paru le 17 mars 2025 dans la presse. Charles Baudelaire écrirait sans doute son célèbre poème « L'Albatros » différemment aujourd'hui. S'il avait connu « Wisdom », ses quelques vers funestes se seraient transformés en une ode à tous les albatros du monde. Car « Wisdom », un albatros des îles Midway, dans le Pacifique, est un phénomène unique dans le monde des bêtes à plumes. Après 2 mois d'incubation, son unique œuf a produit un joli poussin dans les derniers jours de janvier 2025. Un fait banal, si ce n'était que sa mère est reconnue officiellement comme le plus vieil oiseau sauvage au monde. En dépit de ses 74 ans bien sonnés, peut-être même un peu plus, elle pond encore, veille et nourrit sa progéniture. Au cours de son existence, l'oiseau aurait parcouru pas moins de 5 millions de kilomètres, soit 125 fois le tour de la Terre, couvé de 50 à 60 œufs, qui ont produit finalement une trentaine de rejetons à l'envol, selon les spécialistes, qui se base sur les habitudes du géant ailé pour établir ses données. La célèbre pondeuse et un de ses petits ont aussi survécu à un tsunami qui a tué plus de 110 000 bébés albatros et 2 000 adultes en 2011, elle nichait en hauteur. En plus de devenir veuve, 3 fois ont pu observer ceux qui suivent son parcours. Les albatros sont habituellement en couple pour la vie. Après avoir perdu son compagnon, elle ne s'était pas présentée sur le site de nidification depuis 2021 pour y revenir l'automne dernier, où elle a fait la rencontre d'un partenaire manifestement plus jeune. Un record en 100 ans de bagage. L'histoire de Wisdom, sagesse en anglais, débute le 1er décembre 1956 sur l'atoll de Midway, situé environ 2000 km au nord-ouest d'Hawaï, des îlots qui ont été l'objet d'une bataille historique lors de la guerre du Pacifique. Le petit territoire est devenu au fil des ans un refuge faunique américain où nichent 2 millions d'oiseaux de mer, incluant 60% de la population mondiale d'albatros de Laysan, dont Wisdom, capturée et baguée au moment où elle couvait. Pour le biologiste Chandler Robbins, qui a procédé à l'opération, Z-333, de son nom de bague, avait alors au moins 5 ans, mais peut-être 8 ans, l'âge habituel de reproduction chez cette espèce. Or, 46 ans plus tard, en 2002, Robbins est retourné sur l'atoll pour une autre séance de bagages. Z-333 était du nombre de ces nouvelles captures. Heureux, sinon miraculeux hasard, la bague en aluminium tenait toujours le coup, alors qu'elle tombe normalement au bout d'une vingtaine d'années à cause de la corrosion. Le biologiste a mis à jour le registre de la fameuse bague pour découvrir que son oiseau avait au moins 51 ans. Depuis ce moment, Wisdom est devenue une célébrité mondiale, suivie d'année en année par les scientifiques de la base scientifique du US Fish and Wildlife Service. Elle bat tous les records de longévité établis parmi les espèces baguées au monde depuis 100 ans, le dernier étant celui d'un autre albatros de 52 ans, indiquent les autorités du refuge. Wisdom a changé de bague 5 fois au cours des dernières années, notamment pour permettre de la localiser facilement sans capture. Malhabile sur la terre ferme. Réputés pour leur rituel nuptial spectaculaire, les albatros, on en compte 22 espèces, sont connus pour leur longévité de 40 à 50 ans. Mais la plupart sont en déclin. Ce sont surtout les œufs et oisillons qui sont à risque en raison des rats, souris, chats et autres prédateurs introduits dans les îles où ils nichent. Jeunes et adultes sont aussi victimes du plastique, confondus parfois avec des proies ou de la surpêche qui réduit leur garde-manger. La pêche commerciale à la palangre, ces grandes lignes qui s'allongent parfois sur plus de 50 kilomètres, fait des milliers de victimes chaque année, les oiseaux capturant les appâts avant qu'elles ne soient lestées, ce qui entraîne la noyade. L'albatros de Laysan patrouille dans le Pacifique Nord jusqu'à l'Alaska. Il passe sa vie en mer et revient sur Terre uniquement pour se reproduire. La longue incubation de son unique œuf est d'environ 2 mois à partir de novembre et décembre, et les petits prennent leur envol en juillet. Ils se nourrissent de poissons et de calmars en se posant sur l'eau. D'un poids d'environ 2,5 kg, ils font partie des oiseaux ayant la plus grande envergure d'ailes, parfois plus de 3 mètres. Ils dépensent un minimum d'énergie en vol, mais s'envolent difficilement. Et par manque de vent pour les ralentir, ils atterrissent souvent en catastrophe. Et comme le mentionnait Baudelaire, ils sont plutôt gauches sur la terre ferme. Un cacatoès en captivité de 92 ans. Il est pratiquement impossible de déterminer l'âge d'un oiseau sauvage adulte à partir de son plumage. Pour les chercheurs, la seule façon crédible de mesurer leur longévité est de leur poser une bague d'identification à un moment donné de leur existence et de la récupérer éventuellement, ou encore de pouvoir en lire le code à distance. La longévité est toujours beaucoup plus grande dans les jardins zoologiques où les oiseaux sont à l'abri des prédateurs, n'ont plus à migrer et ont un régime alimentaire équilibré ainsi que des soins vétérinaires au besoin. Si les perroquets, particulièrement les cacatoès, sont réputés pour l'âge respectable qu'ils peuvent atteindre, les cas d'octogénaires ou encore de centenaires manquent habituellement de crédibilité. Une étude scientifique publiée en 2011 sur la longévité de 83 000 perroquets, 260 espèces, a démontré que seulement 12 espèces comptaient au moins un individu ayant dépassé les 50 ans. Parmi ces exceptions notables, un cacatoès des Moluques de 92 ans et un cacatoès de Leadbeater qui a passé ses 83 ans dans des jardins zoologiques. Record de longévité chez quelques espèces familières au Québec. Source: Longevity Records of North American Birds, 2024, USGS. Plongeon huard, 33 ans, 9 mois. Grand héron, 24 ans, 6 mois. Goéland à bec cerclé, 31 ans, 6 mois. Tourterelle triste, 30 ans, 4 mois. Hirondelle bicolore, 12 ans, 1 mois. Jais bleu, 26 ans, 11 mois. Colibri à gorge rubis, 9 ans, 2 mois. Corneille d'Amérique, 18 ans, 4 mois. Mésange à tête noire, 11 ans, 9 mois. Merle d'Amérique, 13 ans, 11 mois. Étourneau sans sonnet, 15 ans, 3 mois. Moineau domestique, 15 ans, 4 mois. L'Albatros de Charles Baudelaire. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Ce poème est paru dans le recueil « Les fleurs du mal ». C'était « Septuagénaire et une nouvelle fois maman », un texte de Pierre Gingras, paru le 17 mars 2025 dans la presse.
Boycotter les investissements américains? Pas si vite. Un texte de Clémence Pavic, paru le 7 mars 2025 dans Le Devoir. Après le boycottage à l'épicerie et les annulations de voyages aux États-Unis, faut-il désormais arrêter d'investir dans le marché américain? Attention, préviennent les experts. À vouloir faire mal à l'autre, on court le risque de se faire davantage mal à soi-même et de compromettre ses objectifs à long terme. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Ce n'est jamais bon de réagir sous le coup de l'émotion avec ses placements, dit Sophie Paquette, conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille à la financière Banque Nationale. Ne plus manger d'oranges de la Floride, consommer local au lieu de commander sur Amazon, passer ses vacances au Québec plutôt que dans le Maine, troquer Netflix pour un abonnement à ici-tout.tv. Les consommateurs redoublent d'ardeur ces dernières semaines pour résister à l'oncle Sam. Mais tous ces changements d'habitude ne requièrent que de légers sacrifices dans notre mode de vie, sans présenter de risque pour nos finances. Dans le cas des placements, c'est autre chose. Ça peut créer des dérèglements au niveau de la diversification du portefeuille, prévient Pierre-Benoît Gauthier, vice-président en stratégie de placement chez IG Gestion de patrimoine. Le marché américain diversifié et innovant. Certains secteurs, comme celui de la technologie, sont très peu représentés dans le marché canadien. En boycottant complètement les investissements américains, on risque de sous-pondérer des secteurs de très grande croissance. Et puis, à long terme, ça peut vraiment créer des problèmes, explique M. Gauthier. De par sa taille, le marché américain est beaucoup plus diversifié que le marché canadien, concentré dans le secteur des minéraux, des énergies et des banques, fait valoir Mme Paquette. Comme point de repère, disons que le marché canadien représente seulement 3 % du marché mondial. On est un tout petit marché comparativement aux États-Unis, qui représentent environ 60 % du marché mondial, illustre-t-elle. Selon elle, se priver d'investir aux États-Unis revient à se priver d'un des marchés les plus innovants sur la planète et donc de beaucoup d'opportunités. Dans les 5 dernières années, l'indice S&P TSX, qui est la mesure de référence pour la performance de la Bourse de Toronto, a augmenté d'environ 50 %. Pour sa part, l'indice du S&P 500, qui suit les 500 plus grandes compagnies cotées en bourse aux États-Unis, s'est apprécié de plus de 90 %, soit près du double. Des occasions au Canada. Il y a assurément un engouement ces temps-ci pour investir au Canada, en lien avec l'élan patriotique, observe Pierre-Benoît Gauthier. Mais les investisseurs s'intéressent aussi au marché canadien parce qu'il présente de bonnes occasions, selon lui. De plus en plus de gens remarquent que les actions américaines sont très chères. Elles ont des ratios financiers beaucoup plus chers que les actions canadiennes ou que les actions européennes, souligne-t-il. Si un petit investisseur souhaite placer 1 000 dans le marché boursier canadien, Sophie Paquette suggère de regarder du côté des fonds négociés en bourse, FNB, spécialisés. Il y en a deux qu'on utilise et qui donnent une bonne exposition au marché canadien. Si on souhaite investir dans l'ensemble du marché, il y a le XIC, qui inclut à peu près toutes les entreprises de la Bourse de Toronto et qui offre vraiment une bonne diversification à travers les petites, les moyennes et les grandes entreprises canadiennes. Sinon, il y a le XIU, qui est l'indice des 60 plus grandes entreprises canadiennes, explique-t-elle. Quoi qu'il en soit, en investissement, le maître mot demeure la diversification, martèlent les deux investisseurs, et ce, tant sur le plan sectoriel que sur le plan géographique. C'était « Boycotter les investissements américains? Pas si vite ». Un texte de Clémence Pavic paru le 7 mars 2025 dans Le Devoir.